Okapi.
Dissimulation ou encore destruction des preuves lors d'une enquête de justice, à quelles sanctions on s'expose? Nous avons dans ce studio Rifin Louko qui est juriste et écrivain, donc avec lui on va en savoir un peu plus sur ces sujets, sur cette chronique juridique. On va parler de la dissimulation des preuves d'enquête de justice, donc si vous êtes intéressé par ce sujet, je le disais au sommaire de l'émission, nous avons des problèmes avec nos lignes téléphoniques. Alors, il faut nous écrire un SMS au 091 711 5001. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook Okapi Service ou encore sur service @radiokapi.net. Rifin Louko, bonjour.
Bonjour Jordi, bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous dans ce studio pour aborder ces sujets sur la dissimulation de preuves. Lors d'une enquête de justice, à quelles sanctions s'expose? Il peut arriver, lors d'une enquête de justice, pour une raison, une autre, une personne dissimule les preuves, c'est qu'il peut, j'imagine, entraver le cours de l'enquête. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord bien nous expliquer qu'est-ce qu'on attend par dissimulation de preuves ou encore destruction de preuves?
Voilà, merci Marcel. Je crois que nos auditeurs peuvent déjà imaginer qu'on a eu des difficultés d'embouteillage et tout ça pour qu'on ne puisse pas être au rendez-vous comme ils l'attendent et comme ils nous voient toujours les respecter. Alors, nous sommes encore au rendez-vous de notre chronique, dissimulation de preuves. Alors, la justice rechigne, a toujours de la chair de poule lorsque chaque fois qu'une infraction a été commise, que les preuves ne soient pas gardées intactes, intègres, dans leur état naturel et intègre. Parce que dès que les preuves qui constituent l'infraction sont manipulées, sont dénaturées, la suite, c'est que les juges ou le parquet et consorts qui vont constater, qui vont tirer les conséquences des droits de ceux qui ils vont trouver sur les lieux, ou bien ceux qui prétendument ont été trouvés sur les lieux, va conduire à ce qu'on appelle les erreurs judiciaires ou l'arbitraire. Alors, ce qui fait que la première chose, et ça c'est entre autres parmi les objectifs pédagogiques de cette émission, c'est de former notre population. Ça veut dire, par exemple, si vous remarquez qu'il y a violation, parce que souvent ce qui se passe sur la voie publique, la population ne réalise pas qu'il y a... Si par exemple, vous trouvez que quelqu'un vient de s'endiller la maison d'autrui, et les biens sont en train de prendre du feu, il y a donc infraction. Les enquêteurs doivent trouver la situation telle qu'elle a commencé, c'est-à-dire avec les différents indices et les différentes preuves. Si vous trouvez quelqu'un vient d'abattre par un coup de poing ou bien par une arme à feu, une personne qui gît à terre, évidemment vous devez d'abord l'amener à l'hôpital. Mais les traces qui restent sur le lieu, ces traces-là doivent... C'est pourquoi vous voyez, lorsque chaque fois la police descend sur un endroit où il y a accident, où il y a ceci, la première chose que la police fait, c'est d'encercler le périmètre, pour que personne ne s'approche. Vous le voyez partout dans les films, vous le voyez, encercler le périmètre, ça veut dire pour que cette partie-là ne puisse plus être, n'est-ce pas, fréquentée par les personnes, les véhicules, les consorts, en fait que les traces n'aient... Parce que, par exemple, le coulement du sang peut être une trace déterminante. Parce que le coulement du sang peut déterminer l'heure exacte où la personne est tombée par terre ou a été abattue. Vous voyez, la présence des mouches sur le corps. Donc, il y a beaucoup trop de choses qui peuvent conduire exactement soit à l'auteur, soit à l'arme qui a tiré, soit. Donc, dès qu'il y a manipulation des faits, croyez-moi, vous induisez déjà à ce niveau-là la justice qui va s'administrer en erreur. Alors, quelle est la conséquence que la justice tire? La justice sait que tous ceux qui ont commis l'infraction, ou qui ont incité la commission de l'infraction, ou qui ont collaboré à la commission de l'infraction, s'ils sont nombreux, ils ont comme premier réflexe, pendant que l'auteur principal, ça veut dire celui qui a exécuté, vient de commettre, et lui doit se sauver, les autres qui sont dans la périphérie, leur tâche, c'est souvent d'effacer systématiquement toutes les traces qui peuvent peut-être remonter à eux, ou qui peuvent conduire sur le terrain que non, par rapport à ce qui s'est trouvé sur le terrain, ça reconduit à eux. Par exemple, le fait qu'on a trouvé la plaque sur le véhicule. La plaque. C'est pourquoi vous voyez ceux qui agissent dans le terrorisme, agissent avec des véhicules sans plaque, avec des motos sans plaque, avec des motos non identifiées à la police comme faisant taxi. Donc, parce qu'on sait que s'il y a une plaque, la plaque va renvoyer à la DGI, la DGI va identifier la personne qui est venue. Donc, bref, c'est de fil en aiguille, on va retrouver les personnes. Alors, ceux qui ont intérêt qui ne puissent pas être rattrapés, qu'est-ce qu'il faut? Ils s'organisent pour effacer les traces. Alors, la loi a reconnu que ceux qui s'organisent à effacer les traces sont soit des complices, soit des co-auteurs. Des complices, ça veut dire ceux qui ont collaboré directement pour que l'infraction puisse être commise. Donc, le seul fait de vous mettre à dissimuler des documents, à cacher des traces, à effacer d'autres, vous range parmi les complices.
Est-ce que les sanctions sont les mêmes pour une dissimulation de preuves ou encore une destruction de preuves?
Non, c'est-à-dire, ça peut être une dissimulation.
Oui.
Une dilapidation ou une destruction de preuves. Si cette dissimulation a trait à la commission d'infraction, parce que souvent ceux qui le font sont conscients qu'il y a eu infraction. Je me rappelle, évidemment, dans notre profession, il y a eu un moment dans l'histoire du pays, dans les années 80, où il était interdit de détenir les matières précieuses. Donc le diamant ici, l'or, le coltan aujourd'hui, c'était interdit à toute personne de détenir là, illégalement. Et c'était une infraction punie par la Cour, donc punie et sanctionnée par la Cour de sûreté de l'État. Cour de sûreté de l'État. Et un opérateur s'est retrouvé avec ses biens. Et il a couru. Lorsque le service l'a poursuivi, il a couru. Il a remis, il avait l'information que non, on ne contrôle pas les avocats. Alors il a remis ça à son avocat. Oui. Et l'avocat également a caché ses matières précieuses. Je me rappelle que l'histoire raconte que cet avocat a accepté d'aller à Makala pourvu qu'il ait sauvé son client. Or, la loi reconnaît le pouvoir, n'est-ce pas, à la justice. Et ça, c'était notre chapitre que nous allons, n'est-ce pas, débattre calmement lorsque les questions paraissent bien se venir. Au parquet, au tribunal, de faire ce qu'on appelle la perquisition, la descente sur le lien, pour barrer la route ou bien forcer la main à tous ceux qui dissimulent des documents ou des preuves. Alors, vous me demandez, la loi considère que le complice est puni de la même peine que l'auteur principal. Donc, et le co-auteur, n'en parlons même pas, le co-auteur, lui qui a coagi avec l'auteur principal, celui-là, ils sont punis de la même peine.
Il faut que je comprenne bien. Vous avez dit le complice et
est puni de la même peine que
l'auteur principal. Non, là, excusez-moi pour bien comprendre. Moi, je donne un exemple, c'est-à-dire que vous avez commis un acte vous seul. Vous étiez tout seul lorsque vous avez commis l'acte et vous vous rappelez que vous avez oublié. Je ne sais pas moi, quelque chose qui peut vraiment laisser deviner
que
vous êtes passé par là.
Votre carte d'identité.
Et vous êtes passé par là et vous demandez à quelqu'un d'autre, écoutez, allez rapidement à cet endroit-là, allez prendre un mouchoir que j'ai oublié. Alors la personne ne savait pas que vous avez commis un acte à cet endroit, va vous l'avez demandé d'aller chercher par exemple un mouchoir.
Ah non, tu sais, c'est très compliqué. Parce que, tu sais, pour ceux qui voyagent dans les vols internationaux,
on peut vous remettre
c'est déjà interdit.
Ouais.
Donc, ça dit ça, comme on dit, nul ne s'enseigne là. C'est déjà interdit, Marcel, qui est non, s'il vous plaît, dans un aéroport, n'acceptez pas du tout que quelqu'un vous remette un collier, allez me remettre à tel, et non, moi je suis pressé, je prends tel vol, je vais à tel gate, mon terminal c'est de l'autre côté, aidez-moi aux Andes de Konanga, c'est interdit. Parce qu'à l'occasion là, peut-être il est pourchassé par les services.
Oui.
Pas même directement, mais indirectement, il a remarqué et il considère que si on me trouve avec ça, c'est la catastrophe. Il vous le remet. Et il est parti. Lui, on va le rattraper, il n'a plus la chose. Et c'est lorsqu'on fouille tout le monde là-bas, c'est avec vous ou c'est sur vous qu'on retrouve la chose. Donc, c'est interdit, n'est-ce pas, de faire ça. Alors, si une personne, lui, il sait qu'il a commis une infraction, il dit non, Marcel, retourne d'abord là-bas, cet endroit-là, s'il vous plaît. Alors, non, il faut être prudent. Il faut être prudent parce que déjà, vous aurez l'odeur de quelque chose de bizarre qui se soit commis. Donc, n'approchez pas. Parce que si on vous attrape en train de faire ça, vous aurez la peine à vous défendre que vous n'avez pas été complice. Parce que les complices, ce sont ceux qui ont facilité la commission de la chose. Soit la commission de la chose, soit l'effacement des traces. Ceux-là qui posent ces genres d'actes sont des complices. Donc, qui facilite, qui collabore à l'exécution de l'infraction, elles ne la commettent pas. Et donc, font une plateforme. Ce sont eux qui ont préparé les terrains. Ce sont eux qui facilitent. Et lorsque vous lisez notre jurisprudence, elle donne par exemple le fait que c'est vous qui avez donné votre chape pour la commission aujourd'hui dans notre pays de l'adultère ou du viol. C'est vous qui avez. Et puis, le tribunal de grand état de Kisangani avait condamné quelqu'un qui, sachant qu'il a donné sa chape, pour ça, il avait sa radio dehors avec un volume très élevé. Vous voyez, pour que tout ce qui va se passer là-bas et tout ce qui va passer sur la voie ne puisse rien attendre. Que la personne ait crié ou pas, et c'est lui qui jouait la musique. Et l'enquête a fait constater que lui jouait la musique pour dissimuler, pour cacher son compère qui était en train de commettre ça, qu'il soit à l'abri de toute poursuite. Celui-là, avec sa radio-là, il a été condamné comme complice. Vous voyez ? Donc, le rôle que vous jouez après la commission de l'action, ou avant la commission de l'action, va rapidement vous faire porter le Varès. Soit d'un compère, soit d'une complice. Et rassurez-vous, dans l'un comme dans l'autre cas, vous allez être sanctionné comme l'auteur lui-même, ou même plus gravement comme l'auteur, parce que si on considère que votre aide, votre participation a été déterminante, sans laquelle l'infraction n'aurait pas pu se commettre, vous vous retrouverez facilement dans une situation de circonstances aggravantes pour aggraver votre situation. Donc, c'est pour dire tout simplement.
Non, mais si je comprends bien, donc, on peut également être une victime innocente, hein, parce que moi, je me dis, vous avez un ami, hein, je sais pas moi, qui a été quelque part et qui a peut-être oublié sa voiture.
Ça arrive.
Alors que, tout à fait, qui a oublié sa voiture, alors que, il vous a pas mis au courant, il a commis un acte
de. Alors, il ne faut pas faire le naïf, hein, il ne faut pas faire le naïf. Dans ce genre de choses, l'ami, lui, c'est ce qu'il a fait.
Il vous demande d'aller retirer.
Mais beaucoup. C'est ce qu'on appelle les condamnations pour s'être trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils sont nombreux qui sont condamnés. Lorsque vous allez dans notre prison centrale Makala ici, vous allez à Kassapa, la prison Kassapa, vous allez à Boulouo, vous allez à. Dans toutes nos prisons, vous allez à Ekafela, Ngangenga, aussi, au Ekoso. Vous trouverez qu'ils sont nombreux, qui sont là, pour n'avoir pas suffisamment justifié. Pourquoi il était là à ce moment-là et pourquoi il n'y a que lui qui est allé faire ça.
Mais si la personne.
C'est pas lui qui avait commis l'infraction principale, mais pourquoi c'est lui seulement qui avait fait ça. Vous voyez. Donc, la complicité, selon notre législation, la complicité, c'est la collaboration par une aide essentielle. C'est-à-dire, sans votre aide. L'infraction n'aurait pas.
Donc, c'est-à-dire que vous soyez au courant ou pas, du moment que vous êtes impliqué à travers un acte dans cette affaire. Donc,
ce que vous avez posé. La loi congolaise considère que toutes ces infractions-là, notamment d'aide essentielle, doivent être commises principalement sous la conscience de la personne qui sait qu'il collabore à une entreprise criminelle. Il doit être conscient. Et. Alors, comme cette conscience-là, c'est toujours difficile à établir comment la personne a été suffisamment consciente. Parce que, par exemple, tu peux trouver que non, il te demande d'aller prendre quelque chose dans un véhicule, et tu trouves que le véhicule est déjà sous fourrière parce qu'il y a eu un accident là-bas. Et toi, tu te forces, effectivement, à accomplir la mission que t'as assigné. Tu veux distraire même la vigilance de la police ou de. Oh non, je ne connais rien, je viens juste te voir, alors que tu as l'objectif de soustraire, n'est-ce pas, la chose qu'il t'a demandé de faire. Donc, il faut être vigilant. Parce que, vous savez, nous défendons, ça fait une vingtaine d'années, dans ce genre de cas, nous savons que souvent on a de la peine à convaincre les juges. Si la personne, dans sa commission des actions qu'on lui reproche, a commis une aide, ou bien ce qu'on appelle, il a été tellement naïf que l'on a de la peine à les défendre. C'est pourquoi on dit, nous devons agir comme un citoyen. Des commets des mortels.
Ça veut dire, dans la situation où
toute personne placée dans la même condition là n'aurait pas pu commettre ce que toi tu as commis. Alors c'est ça la diligence, il faut être prudent. Dans chaque fois que nous agissons pour telle ou telle autre personne, il faut la prudence totale.
Voilà, si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, nous parlons de la dissimulation, destruction de preuves lors d'une enquête de justice. À quelles sanctions on s'expose? Nous en parlons avec Riffin Louko, qui est juriste écrivain. Nous rappelons que si vous voulez intervenir par rapport à ces sujets, n'appelez pas au 081-890-694, nous avons quelques problèmes avec nos lignes téléphoniques, et envoyez un SMS au 081-711-5001. Ou alors vous réagissez sur la page Facebook Okapi Service ou encore sur service @radiookapi.net. Nous avons déjà quelques réactions qu'on va découvrir tout à l'heure.
Votre connexion internet est trop lente? Radiookapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mails. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radiookapi.net, à votre service.
Voilà, on va découvrir quelques réactions qui nous sont parvenues sur la page Facebook Okapi Service. Nous avons Franck Bayeo qui nous écrit de Mandaka. Il écrit ceci: le fait de détruire les preuves d'un fait infractionnel, à mon avis, cela peut donner lieu à plusieurs infractions si on se base sur la nature de la preuve détruite, l'intention de son auteur. Qu'est-ce que vous dites à Franck qui dit ceci? Le fait de détruire les preuves d'un fait infractionnel, à son avis, cela peut donner lieu à plusieurs infractions si on se base sur la nature de la preuve détruite, l'intention de son auteur.
Ah non, c'est ce qu'elle vient de dire. Hein. C'est souvent dans les infractions punissables d'une peine importante, ça veut dire au-delà de 5 ans. Ces infractions-là vont de meurtre, association de malfaiteurs, assassinat, vol à main armée, et donc la grande criminalité. Ou les faux commis en écriture commis par des fonctionnaires. Ça, ce sont des infractions plus ou moins de la grande importance ou le détournement et consorts. Toute personne qui est consciente qu'il a commis cette infraction-là et que déjà soit la justice est en branle, c'est-à-dire la justice est en mouvement vers lui, s'organise pour effacer toutes les traces, arracher les récits, les pages d'audience où on peut remonter que non, il était passé par ici pour demander. Tout ça. Il envoie des agres correcteurs et tout. Donc, il peut imaginer toutes sortes de trucs pour effacer tout. Alors, l'importance de l'acte que vous commettez, ça veut dire, vous qui s'associez à la disparition, dissimulation de documents, ceci, l'importance de ça, c'est l'attache principalement à la gravité de l'infraction. Et si vous parvenez, comme il le dit là, à effacer toute la preuve, eh bien, selon l'importance de ce que vous avez commis en termes d'acte ou action, eh bien, vous serez qualifié de co-auteur ou complice. Donc, rassurez-vous, dès que vous êtes aligné, dès que la justice vous fait porter cette varèse-là, eh bien, vous n'allez pas vous en sortir, parce que même si l'auteur principal, lui, a pris la poudre de scampette, vous, le complice-là, vous n'allez pas vous en sortir. Vous serez condamné, parce que je vous ai déjà donné le régime de principe en ce qui concerne ces genres de collaboration, ces genres d'aide essentielle.
Voilà, on va découvrir une autre action, c'est celle de Samson qui nous écrit depuis Inga Barrière à Nitori. Elle écrit ceci: un parent a accusé un garçon parce qu'il a violé sa fille. Alors, peu après, le papa de la fille, le garçon et l'OPJ ont décidé de retourner le problème à la maison. Qui parmi eux a détruit ce qu'on appelle preuve de fait infractionnel? Et puis, c'est quoi la peine?
Bon, ça dit, ça c'est donc un règlement amiable qui déjà en matière de violence sexuelle est déjà interdit, le règlement amiable. Ça veut dire la police a décidé, et comme toujours, nous le voyons, ces cas-là n'est pas un cas quelconque, hein, souvent, la police est convaincue par une partie, non, tout ça, et puis il peut m'en parler. Ça veut dire quoi? Ils s'entendent, ils s'organisent à s'entendre, ramener l'affaire entre parties en famille, pour que la famille des garçons puisse payer tel montant en termes de réparation et que la justice se taise. Ça, c'est interdit en matière de violence sexuelle. Il faut que la justice se prononce. Le règlement amiable ne met pas fait n'est-ce pas, dans la plupart des infractions. Vous pouvez vous entendre entre victimes là-bas et l'auteur, mais si la justice est au courant de ce qui s'est passé, ça veut dire de la violation de la loi, le parquet, la police, le tribunal peut poursuivre, n'est-ce pas, les poursuites. En dépit du fait que vous êtes entendu à l'amiable. Parce que ce que vous avez fait n'a pas rendu seulement la victime comme étant la victime principale, mais aussi la société. La société est victime. Et comme la société est victime, il y a celui qui est chargé, n'est-ce pas, de rendre la justice à la société. C'est le parquet en arrêtant l'auteur. Et le parquet amène tout ça où au tribunal, à la cour, pour que la cour puisse trancher, ça veut dire donner la sanction que la société attend, parce qu'elle a été victime également, contre l'auteur qui a troublé l'ordre public. Donc, le règlement amiable ne suffit pas pour mettre... Alors, celui qui a effacé les traces, ça peut donc être les policiers, parce que lui a toutes les preuves, au lieu d'aller en justice, parce que c'est le point de départ de la justice, c'est la police, au lieu d'aller jusqu'au bout, la police, parquet tribunal, parce qu'aujourd'hui, c'est comme une certaine police croit que si vous amenez le dossier au parquet, et ça va quand même aller en aliaque. Et un certain parquet croit que si vous fixez l'affaire au tribunal, et ça va quand même aller en aliaque. Alors, chacun se débris. C'est pourquoi nous voyons la police et le parquet des instances généralisées de règlements amiables, donc des règlements de conflits, pour éviter les juges, dans cette logique. Et nous avons déjà fait des statistiques sur l'étendue du territoire national, dans tous les registres, si vous voyez devant chaque tribunal, les matières pénales, donc les matières de répression, en tout cas dans les tribunaux de droit commun, la plupart des affaires, alors qu'elles devaient venir du parquet, viennent maintenant des citoyens par ce qu'on appelle les citations directes. On parle de plus de 70%. Les procès au pénal qui auraient dû venir du parquet, c'est moins de 15 à 10% qui viennent du parquet. 70 à 80 des citoyens, c'est-à-dire des statuts directs des avocats.
Citation directe, c'est-à-dire.
Ça veut dire, la partie victime a estimé que non, ceux qui sont dans le tribunal, OPJ, dans le parquet, et comment ça m'a fait. Ça va faire longtemps, si je passe par ces services-là, ça va prendre beaucoup de temps. J'ai les preuves, j'ai saisi directement le tribunal. Et la voie à suivre pour saisir directement le tribunal, le code de procédure pénale appelle ça la citation directe. Ça veut dire, vous avez amené votre adversaire directement au tribunal, sans passer par la police ni le parquet.
Voilà, on va découvrir cette autre réaction qui nous vient de Calémie. C'est Ernest Lukumwena Kalala qui nous écrit. Alors, il dit ceci: pouvons-nous dire que le fait de faire disparaître le preuve, c'est de la ruse, et la peine est de combien d'années?
Nous avons dit que si vous disparaissez des preuves, c'est qu'il y a une infraction qui a été commise. Si vous dissimulez des pièces et des documents, c'est qu'on sous-entend qu'il y a une infraction préalablement qui a été commise. Ça peut être soit par vous-même ou par une autre personne. Alors si c'est par vous-même, vous serez puni de l'infraction principale. Parce que vous avez... C'est pourquoi on arrête déjà pour des réseaux d'enquête. On vous maîtrise pour des réseaux d'enquête. Parce que soit on crée que tu peux te soustraire à l'enquête et quitter la capitale ou votre ville ou votre province et vous traversez la frontière, vous allez chez le voisin. Ou tout simplement on considère que vu les caractères volatiles des preuves que vous avez éparpillées, si on vous laisse libre avec ton téléphone et accéder à ton bureau et qu'on sort, vous allez faire tout disparaître. Alors on vous maîtrise. On vous met en détention, on vous met ce que les policiers appellent hors état de nuire. Et l'enquête s'est faite calmement. Mais alors, si c'est vous-même qui avez commis l'infraction et effacé les traces, vous serez sanctionné principalement pour la prévention principale. L'effacement des traces va constituer la preuve de la conviction que vous étiez au courant de la gravité de la situation, de ce que vous avez commis. C'est pourquoi vous vous êtes précipité à effacer les traces. Mais si c'est une autre personne qui fait ça, si c'est une autre personne qui efface, dissimule, détruit des documents, ça se fait chaque jour. Les récits, vous voyez quelqu'un dans une petite poubelle quelque part, entrer avec un petit ciseau ou en train de déchirer les documents. Vous le voyez très concentré, en train de déchirer petit à petit, morceau par morceau, pour effacer. Donc, tout est registré, il a décidé carrément de dépiécer tous les registres. Vous voyez que la personne est très consciente.
de la mission qu'il accomplit au service de son collègue ou de son chef qui a fait ça. Et souvent, ces genres de personnes sont rattrapées par la justice. Et j'ai dit, je le répète ici, qu'ils sont considérés soit comme des coauteurs, soit comme des complices. Tout dépend de l'importance de l'aide. Pas tout ça, c'est l'aide.
Hein, et de la fonction qui a été posée.
Voilà, ouais. Tout ça dépend de l'importance de l'aide que vous aviez apportée. Soit à la commission de l'infraction, soit à la disparition des preuves.
Voilà, alors dites-nous, Réfère Lucot, vous qui êtes juriste, à quel moment les enquêteurs peuvent se rendre compte qu'il y a eu dissimulation ou destruction de preuves? C'est lors de la perquisition. Donc,
c'est principalement à tout moment. Parce que ce qu'on appelle, non, les enquêtes sont en cours, en dépit du fait que chez nous, c'est en cours, là, on prend beaucoup trop de temps souvent. Je me rappelle du véhicule qui avait incendié, du véhicule qui venait de Tanzanie, Kenya, qui avait incendié, qui a fait explosion à Sangui.
À Sangui, oui.
Ça fait maintenant 5 ans, quelque chose comme ça. Les enquêtes sont toujours en cours. Hein. Alors, ça prend beaucoup trop de temps. Avec la conséquence, mais la preuve aussi vieillit. D'ailleurs, en matière de violence sexuelle, c'est 2 jours. Si, au-delà de 2 jours, vous n'avez pas amené la personne en justice. Il y a des fois même, on compte d'air à air. Aussitôt qu'il y a un viol, il faut rapidement amener la personne à l'hôpital pour que le médecin constate les différentes traces, et notamment les substances séminales, comme on les appelle, en termes de médecin. Il faut qu'on les constate rapidement. La preuve aussi vieillit. C'est qu'il faut que ça prenne beaucoup de temps.
Mais le médecin, il y a également des faits qui rebondissent des années plus tard.
Oui, évidemment. Ça rebondit souvent, soit la preuve qui avait été cachée, enfouie, quelqu'un l'a découvert. Ou souvent, les bouches qui s'étaient reliées définitivement, après la commission de faits, comme dans l'assassinat de Lumumba, 2 ans, 3 ans, 50 ans après, commencent à se délier. Les gens qui ont commis, n'est-ce pas, l'infraction, leurs enfants, leurs successeurs, leurs amis intimes commencent à délier la langue. Parce qu'ils étaient des témoins oculaires. Parce qu'en matière de justice, les témoins sont des partenaires essentiels. C'est pourquoi la loi prévoit qu'on a l'obligation de témoigner. Témoigner, c'est une obligation. Ce n'est pas un droit. Vous, lorsque vous êtes requis par la justice à témoigner, vous devez témoigner si la justice est convaincue que vous étiez là. Vous avez vu, vous avez entendu. Vous avez eu vent. Je parle en termes, mais pas comme ça. Vous avez eu vent de quelque chose. Vous devez dire ce que vous aviez entendu. C'est important. Et je rappelle ici à la population que donc, témoigner aussi, notre code prévoit une cagnotte. Donc, vous ne témoignez pas gratuitement. Témoigner, la loi prévoit un petit émolument. Quelque chose pour vous encourager. En dépit du fait que notre justice n'en donne plus. Mais en tout cas, lorsque vous m'invitez de quitter chez moi à Kinkole, par exemple, pour aller témoigner à Kassangoulou, je me paie moi-même le transport aller-retour, et toute la journée, je vais faire là-bas, je ne sais pas combien de jours, je me loge moi-même, c'est très compliqué. La loi prévoit que le tribunal doit donner quelque chose aux témoins.
Mais certaines personnes disent que certaines personnes disent que elles craignent d'aller témoigner parce que des fois on peut vous
ça
poser
contre
non on, ouais, ça se retourne contre justement c'est le problème bon on peut vous poser certaines questions auxquelles vous n'arrivez pas à bien répondre et surtout quand il s'agit d'un témoin à charge.
C'est pourquoi c'est important la protection des témoins. Je me rappelle dans les procès des Indiens qui avaient été attrapés à l'aéroport avec les diamants. Nos agents de l'aéroport qui avaient été attrapés, c'est là, je m'étais bâti comme avocat de la République pour leur protection, notamment qu'ils ne puissent pas être leur image comme ça, on voit Marcel, oh non c'est Marcel. Non, c'était... Et je sais que, parce que le tribunal ne m'a pas suivi, la vie de ces dames-là a changé depuis. Et ça, c'était une grande erreur. Je me suis bâti pour que la diffusion, comme ça s'est passé en direct, on ne puisse pas diffuser l'image des dames comme étant notamment témoin, mais agent de l'État qui ont rendu cet énorme service à la République. Les témoins doivent être protégés. Maintenant, aujourd'hui, avec la CPI, avec le statut de la Cour pénale internationale, les témoins sont cachés, ils sont codés. Donc, les témoins, vous pouvez l'entendre, mais vous ne le voyez pas. On vous dit non, c'est le témoin S4. Point. C'est pour la protection, parce qu'on sait que cette histoire de Ekozong et Langa, c'est réel, notamment dans les milieux rebelles ou dans les milieux où l'État n'est pas suffisamment implanté.
C'est souvent, et lorsqu'on voit que la personne a été acquittée alors que c'est vous qui l'avez accusé, c'est vous qui êtes parti témoigner contre lui, c'est souvent compliqué pour les témoins. Donc, nous devons encourager à la protection des témoins. Notre justice doit protéger les témoins. Notre justice ne doit pas oublier, n'est-ce pas, les cachets qu'on doit donner aux témoins. Et tout ça, c'est pourquoi lorsque nous luttons pour que notre justice puisse avoir le moyen, comme on donne au Parlement, on donne aux différentes institutions économiques et sociales et consommes, le moyen de fonctionnement, qu'on n'oublie pas la justice mondiale. Maintenant que la justice est en train de s'occuper du contentieux électoral ou du contentieux des candidatures, il faut que notre justice ait le moyen, comme toutes les autres institutions, parce que jusque-là, c'est qu'on fait le moyen de fonctionnement. C'est le parapauvre. Et en conséquence, parce que vous ne donnez rien, les témoins n'auraient aucun cachet, ils doivent payer lui-même le transport, même le petit croissant, parce qu'il va passer toute la journée. Nous avons vu dans des procès où des témoins ont passé. Comme dans le procès à l'époque d'Edi Kapene, des témoins ont passé toute l'année être en train d'être réquisitionnés, venir témoigner chaque jour, et ils n'ont rien réussi. Et ça, c'est épuisant. La personne qui vit pareille histoire ne reviendra plus jamais dans un procès. Donc, nous devons apprendre, n'est-ce pas, appliquer notre loi pour encourager nos citoyens à collaborer à l'administration de la justice, comme ça se passe dans la plupart des pays. Mais il faut souligner qu'en ce qui concerne les perquisitions, il y a une procédure, et nous devons en parler ici, la procédure des perquisitions, parce que la perquisition, il est interdit qu'elle se passe à l'absence du propriétaire des lieux.
Ça pourra faire l'objet d'un prochain sujet, hein, dans le magazine Capi Service. Alors là, on va découvrir rapidement d'autres réactions qui viennent de nous parvenir sur notre page Facebook. En tout cas, merci de réagir sur la page Facebook de Capi Service. Alors là, c'est Augustin Arabo qui écrit depuis Goma. Il écrit ceci: si une personne peut détruire les preuves devant l'OPJ, donc il n'a pas confiance en lui, et sa peine est la condamnation à mort sur la loi. C'est-à-dire une personne qui détruit les preuves devant l'OPJ. C'est pas son pour vous.
Ça c'est très grave. C'est déjà une destruction méchante. C'est une autre infraction. Donc, si vous détruisez les preuves, c'est déjà une destruction méchante d'un document de justice. Ah non, là c'est très grave. Là d'ailleurs, on peut te juger en flagrance. Vous voyez? Donc il faut vous méfier de ça. Il y a quand même beaucoup trop d'arrogants qui font ça. Hein, des téméraires qui font ça. Comme ce qui s'est passé, qu'on a suivi dans les informations en Amérique du Sud, où un grand criminel de drogue. Hein, s'est sauvé comme ça, avec un trou souterrain qui lui a, avec même une moto qui a... Donc ça, c'est spectaculaire. Vous sentez l'engagement criminel de ces genres de commettants redoutables. J'espère que la justice sud-américaine va retrouver cette personne-là. Mais déjà, dans ce mode opératoire, prouve que la personne est dangereuse, elle est bien organisée, et derrière lui, il y a toute une entreprise criminelle, n'est-ce pas, et très solide.
Et qui peuvent bien aussi dissimuler de preuves.
Oh non, mais déjà en soustrayant leur compère d'une haute prison de sécurité, c'est qu'ils sont très bien organisés. Et le malheur, c'est qu'aujourd'hui, la criminalité n'est plus cette criminalité des années 60-70. Aujourd'hui, elle est organisée, elle est sur les nets, elle est sur Facebook, comme nos auditeurs, qui ne sont pas des criminels, ils sont des fidèles auditeurs. Mais la criminalité s'est organisée pour que chaque fois que la justice vient, elle ne trouve personne. Alors, elle ne trouve rien comme preuve parce qu'ils sont organisés à effacer tout ce qu'ils ont commis.
Alors Rafal, lui, demande ceci: quelle est la différence entre détruire les preuves et faux et usage de faux?
Ah voilà. Alors là, la notion est importante. Différence entre détruire les preuves, faux usage de faux. Alors, dans les faux usages de faux, c'est l'altération de la vérité à un de ces criminels. Donc, dans un écrit. Alors, les faux, c'est par exemple, vous avez votre diplôme d'État, vous aviez 50. Mais vous transformez les 5
en 6,
en 8. En 8, pour que ça fasse 82, vous aviez une grande distinction. Vous voyez? À une faute criminelle, ça veut dire, il fait de vous donner des avantages que vous n'aviez pas. Vous grattez, et d'une manière plus ou moins professionnelle, vous faites disparaître les 5. Ça, c'était faux, par grattage, hein, et par surcharge. Il peut y avoir aussi également faux par destruction. Vous détruisez, n'est-ce pas, carrément les documents, pour qu'on ne voie rien. Donc, les faux en écriture peuvent également être commis par destruction, anéantissement de la vérité. De cet écrit-là, vous le détruisez. Donc, c'est possible que le juge puisse trouver dans l'acte de destruction de vérité ou de preuve un faux en écriture. Et lorsque c'est le cas, vous serez donc également condamné, non seulement pour l'infraction principale, mais également pour l'infraction des faux à l'écriture.
Voilà, Maître Rifa Luko, on va s'arrêter par là. Nous rappelons qu'avec vous, on a parlé de la dissimulation de preuves lors d'une enquête de justice. Et vous avez dit que cela dépend d'abord de l'infraction à commise, à plus...
De l'aide essentielle.
Exact, et de l'aide essentielle à porter. Uh-huh. Et donc, le complice hein, peut également être puni, peut être également puni comme l'auteur de fait. Voilà, on espère vous retrouver une prochaine fois pour... un autre sujet sur le droit. En tout cas, merci à Marguerite Embouteillage.
Merci à nos auditeurs qui nous ont suivis par rapport à leur fidélité. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci.